Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bueno sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic, que va a golpear.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu. On parle aujourd'hui d'un très beau match de foot pour cette cinquième journée de Liga, cinquième journée de championnat espagnol. On va parler du match entre le Betis et Villarreal, un match très alléchant, match de haut de tableau en plus. Ça va être surtout ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui, un format un peu différent d'ailleurs pour ce numéro, puisqu'on va parler d'abord du Betis. On va parler là un gros quart d'heure du Betis avant de parler de Villarreal. Et pour parler donc du Betis, on est avec Fabrice, gérant de la page Real Betis France. Salut Fabrice, comment ça va?
Salut les gars, salut à vous deux, ça va très bien et vous?
Eh ben ça va nickel, et puis effectivement on est avec Sacha aussi qui va pouvoir compléter tes propos. Salut Sacha, comment tu vas?
Ça va super, là on est très très content, on a du lourd qui arrive au niveau de la page, on travaille quand même pas mal, et puis non, un super match de ce dimanche. C'est vrai que on n'a pas l'habitude en Liga de faire beaucoup de podcasts sur des clubs qui nous concernent, enfin, sur des matchs qui ne concernent pas directement le Real, le Barça ou l'Atleti, mais vraiment un petit Betis Villarreal ce dimanche soir pour finir le week-end, c'est parfait.
Tu l'as dit, et puis en plus c'est vrai qu'indépendamment des podcasts, il y a aussi beaucoup d'autres projets qui arrivent avec la page. En tout cas, vous verrez tout dans les prochaines semaines. On va commencer ce podcast par parler un peu du Betis, donc comme je le disais. En revenant avec toi, Fabrice, sur ces premières journées de Liga, ces quatre premières journées de Liga, hein, je vais te demander ce que tu en as pensé. C'est vrai que probablement, du coup, le Betis au niveau du classement est quatrième avec trois victoires et puis la dernière défaite là contre le Real Madrid. Toi, voilà, quel bilan tu tirais pour le moment de ces quatre premières journées de Liga, si on se focus uniquement sur le championnat pour le moment. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé jusqu'à présent?
Bah, c'est un bilan très positif, hein. C'est un bon début de championnat avec trois victoires d'affilée contre des équipes prenables, mais fallait gagner ces matchs, surtout que le mercato du Betis a été quand même très très compliqué, mais ça on pourra en revenir sur une autre question. Mais ouais, c'est un bon début de championnat, fallait démarrer comme ça, fallait poser de suite les ambitions. Il y a du jeu, c'est toujours Pellegrini à la baguette, donc ça marche bien, même si là il y a des blessures qui vont peser, je pense. Donc en plus la dernière défaite au Bernabeu, où le Betis a fait un très très bon match qui est pas mérité selon moi, et où il y a eu quand même, faut le dire, des grosses erreurs d'arbitrage.
Ouais, des polémiques qu'on a vues qui ont été comme justement assez grandes, assez discutées. Et effectivement, bah tu parlais, c'est vrai, des transferts. Si jamais tu veux dire quelques mots dessus, bah c'est le moment, on va en parler maintenant si tu veux. Parce que c'est vrai que tu disais le Betis a eu un étossier compliqué, hein, sur le plan des inscriptions des joueurs. On a vu que notamment William José s'était fait dans les derniers instants du mercato au mois d'août, là début septembre. Donc voilà, si tu voulais résumer un peu cette situation, bah je te laisse la parole pour expliquer un peu ça aussi aux auditeurs.
En Liga, il y a une limite salariale qui est définie par club. Alors, je ne sais pas exactement comment elle est définie, je n'ai pas les données exactes, mais il y a une limite salariale qui est définie par club. Et il était que le Betis ne rentrait pas dans sa limite salariale, ne pouvait pas inscrire tous ses joueurs en étant dans ce plafond salarial. Donc, ils ont dû ajuster plusieurs choses, donc c'est ce qui fait qu'il y a eu quasiment pas de recrues. Il y a eu que deux joueurs libres, Luis Felipe et Luis Enrique, qui avaient déjà été signés avant le début du mercato. Et donc de ce fait, alors, il y a eu quand même un phénomène assez rare, je pense, dans le football maintenant, c'est que quasiment la moitié de l'effectif du Betis a accepté de baisser son salaire pour permettre d'inscrire des joueurs qui n'étaient pas encore inscrits, donc William José et Bravo en l'occurrence. Donc voilà, c'est un beau geste de la part de tout le groupe, qui ont fait des efforts pour les autres, pour pouvoir jouer ensemble cette saison, et j'espère réitérer la même saison que l'année dernière.
Oui, effectivement, puis c'est vrai que tu parlais ouais, de Claudio Bravo, de Willian José, il y avait eu entre autres aussi Joaquin quelques jours plus tôt, mais c'est vrai que tu l'as dit, il y a eu en tout cas un effort collectif qui a été fait. Sacha, je te passe la parole si tu veux pour parler un peu. Enfin, est-ce que tu confirmes d'abord les propos de Fabrice par rapport au début de saison du Bétis, et si jamais voilà, tu avais une précision à apporter par rapport à ce qu'il disait justement notamment aux explications concernant la limite salariale des clubs en Liga?
Sur les propos de Fabrice qui sont très justes, le début de saison du Bétis est excellent. Le seul match que j'ai pas eu l'occasion de voir les Béticos, c'est hier leur rentrée en lice en Ligue Europa qui s'est très bien passé du côté d'Helsinki en Finlande avec cette victoire 2-0. Le problème, c'est que comme le disait l'excellent article paru dans Estadio Deportivo ce matin, c'est que mine de rien, ce début de saison commence à être payé cher. Par les blessures. On a vu Nabil Fekir qui a été blessé dans son choc avec Carvajal. Tu parlais de problèmes d'arbitrage lors du match face au Real Madrid. C'est pas le passeport qui le dit, c'est juste l'objectivité. Il y a quand même deux pénaltys qui ne sont pas sifflés pour le Real Betis et ça fait lourd à la fin quand on fait les comptes. Parce qu'en plus de perdre un joueur comme Nabil Fekir pour un mois, c'est pas neutre. Là, il y a Juan Mi, Victor Luis aussi, donc à voir un peu comment cet effectif va se comporter d'ici là. Bon, il va y avoir la trêve internationale qui va aussi permettre pendant 10 jours de pouvoir pour certains joueurs bien recharger les batteries et justement aussi prévenir certaines blessures. Mais voilà, ça risque d'être quand même une donnée assez importante pour leur début de saison qui est, rappelons-le, très très bon et qui pourrait être encore meilleur avec ce match face à Villarreal qui forcément opposera deux clubs qui ont très bien commencé. Qui se sont aussi imposés en Europe et qui justement, je pense, doivent nourrir les mêmes ambitions, à savoir le top 4. Maintenant, au niveau du mercato, oui, c'est vrai que le Betis a eu un peu les mêmes soucis que le Barça, avec des difficultés pour inscrire les joueurs parce que bon, ben, ils avaient dépassé leur plafond alors qu'ils n'avaient pas encore fait rentrer suffisamment d'argent dans les caisses. On a eu la chance d'être invité à la conférence de presse de la Liga, dans laquelle on a pu entendre Javier Tebas et Javier Gomez. On vous sortira un papier là-dessus pour tout récapituler, parce que dans cette conférence de presse, tout a été très bien expliqué, avec notamment le changement de règles. Il y a plein de choses qui ont changé, qui demandent un peu de concentration pour tout vous expliquer sur papier, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui a du mal à être retransmis en France via les médias français. La connaissance à ce sujet est assez légère et on va tenter en tout cas de vous faire un bon résumé. Mais oui, un mercato très intéressant et un Bétis qui, selon moi, paraît vraiment armé pour cette saison qui s'annonce très très belle et avec beaucoup d'ambition.
Ouais, ça, tu le disais, puis toutes ces précisions que tu évoquais là concernant les limites salariales qui ont été voilà très bien détaillées par la Liga. On vous expliquera tout ça en détail. Et c'est vrai que juste avant ça, tu parlais un peu d'Europe. Tu as commencé déjà d'ailleurs un peu à répondre à la question, donc ça me permet directement de la poser à Fabrice. C'est vrai qu'il y a eu cette première victoire hier du côté d'Helsinki, avec un succès donc 2-0 doublé de Willian José. On s'était déjà posé un peu la question la semaine dernière, mais c'est vrai que vu du point de vue, on va dire, d'un supporter du Betis, ça peut être répondu différemment. Toi, jusqu'à où tu vois aller ce Bétis en Europe, en Europa League particulièrement? On sait qu'il y a un groupe quand même qui est pas non plus très relevé, mais qui est pas non plus trop évident avec Ludogorets, la Roma et puis donc Helsinki hier que vous avez affronté. Toi, voilà, dans cette édition d'Europa League, jusqu'à où tu vois à peu près le Bétis se aller? Quel objectif tu fixes en tout cas sur le plan européen?
Après, c'est compliqué de pronostiquer maintenant parce qu'il y a quand même le mondial qui va un peu fausser les choses. On ne sait pas s'il y aura des joueurs. Déjà, on ne sait pas s'il y aura des joueurs du Bétis qui vont aller au mondial. Donc, est-ce qu'il y en a qui pourront y aller, qui vont être blessés, qui vont revenir? Après, j'ai de l'ambition pour cette saison en Europe, mais j'ai quand même un peu de réticence aussi parce que l'effectif, il n'a pas été. Il n'a pas été très, très étoffé. Là, il y a plusieurs blessures, donc, comme l'a dit Sacha. Il y a Juanmi là, qui va être blessé à un moment, qui ne devrait pas revenir avant le mondial d'ailleurs. Et là, par exemple, sur les côtés, ça met Rodri, Luis Enrique, deux très jeunes joueurs, et Joaquin, un joueur d'expérience. Mais en fait, sur les côtés, déjà, il y a un manque. Il manque au moins un ou deux joueurs. Le poste de latéral droit, pareil, c'est Sabali ou Montoya normalement, alors que là, c'est Heitor Ruibal qui fait le boulot, alors que c'est pas un arrière droit de base. Alors, pour répondre à ta question, J'aimerais bien que le Betis aille loin, plus loin que les huitièmes de finale de l'an passé, mais je pense que en termes d'effectifs, surtout au niveau du banc, ça me paraît léger. S'il y a des blessures, tout ça, ça peut vite être compliqué. Donc, à voir. Après, le groupe, moi, je le trouve quand même. On va pas dire relevé. La Roma, ça reste costaud, mais Ludogorets, quand même, qui bat la Roma hier, je m'y attendais pas. Je connais pas du tout cette équipe de Ludogorets, mais ils viennent la semaine prochaine au Benito Villamarine. Ça a l'air quand même d'être assez costaud. Donc, déjà se qualifier, passer les poules, et après voir ce qui se passe en huitième de finale, avec quel effectif on arrive, et on fera les comptes à ce moment-là.
Ouais, puis en plus c'est vrai que tu disais, hein, hier première petite surprise parce que c'est vrai qu'on voyait pas forcément non plus la Roma s'incliner, mais tu l'as dit, c'est un peu ce qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière, un effectif comme qui globalement est dans l'instabilité par rapport à celui de l'année dernière. Il n'y a pas eu tellement d'évolution, on va dire, en termes de recrues, tu disais, mais aussi sur le plan des départs, c'est un effectif qui s'est pas en tout cas énormément renforcé, mais qui voilà, en tout cas semble prôner un projet, on va dire, qui reste aussi voire plus stable que celui de la saison passée, avec quand même toujours des acquis qui sont présents. On va passer un peu au match dans cette partie suivante. Je vais d'abord te demander ton avis à toi, Fabrice, et puis après je passerai la parole à Sacha. C'est vrai que là on parlait beaucoup de l'Europe, on parlait du début de saison, mais toi, ce match-là qui arrive dimanche, on l'a dit quand même face à le Villarreal, pareil, qui fait un gros début de saison avec 10 points sur 12, hein, une des rares équipes de Liga qui est encore invaincue. Toi, comment tu attends ce match, comment tu l'abordes, comment tu le vois venir, on va dire un peu, comment tu espères cette rencontre?
Déjà, Villarreal, c'est un gros, 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 gros morceau en Espagne. Et ils sont encore vraiment bien, bien renforcés. Des joueurs comme Morales, moi, c'est Morales, c'est quelqu'un que j'aurais adoré avoir au Betis. Franchement, Morales, il nous a fait tellement mal avec les 20. Et en plus, ils peuvent se permettre de le mettre sur le banc. Ils ont Lo Celso qui est passé au Betis. On sait ce qu'il a fait quand il est venu ici. C'est un super joueur. Non, honnêtement, pour parler 30 secondes de Villarreal, ils sont vraiment très 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 bien armés pour aller loin cette année, je pense, en Europe et en championnat. Ça, c'est un gros. Ils ont un gros banc. Par rapport aux Betis, ils ont un plus gros banc. Et le 11, il a de la gueule. Donc, c'est un gros morceau qui vient au Benito Villamarín. Il n'y aura pas Nabil Fekir, il n'y aura pas Juan Mi. C'est des absences qui vont peser, certainement. Bon, il y aura quand même un bon 11 sur le terrain. Après, comme j'ai dit, ça va être compliqué parce que Villarreal, en plus, c'est un peu notre bête noire. Ils sont venus gagner l'année dernière au Benito Villamarine. On a souvent du mal à les battre. Donc, je crois qu'ils ont pas encore pris de but. Ils ont zéro
Ouais,
but
ouais.
encaissé. Donc, ils ont une grosse, grosse défense qui n'a pas changé depuis plusieurs saisons, il me semble. Avec Pedraça qui est passé au Betis aussi. Non, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais on a de quoi faire pour les battre. Mais ça va être un gros morceau. Parce que là, en plus, ils ont fait tourner, je crois, aussi en Europe comme le Betis.
Ouais, un
Donc, ils
peu
vont
hier,
arriver
ouais.
avec le 11 frais. Et non, le 11 type, il est quand même violent. Donc, je m'attends à un gros, gros match. Il va falloir que tout le monde soit vraiment à son niveau pour pouvoir rivaliser avec cette grosse équipe qui, je pense, peut accrocher à la Ligue des Champions cette année.
Ouais, et puis c'est vrai que tu le disais, alors on reviendra beaucoup sur la partie Villarreal après, donc avec Cyril, mais tu plantes déjà bien le décor, hein. C'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas encore encaissé de but, soit l'équipe d'Espagne et d'ailleurs même des cinq grands championnats européens qui n'a pas encore encaissé de but. Et puis effectivement, tu le dis, c'est vrai que l'objectif de la Ligue des Champions est jouable, d'autant plus voilà que Séville connaît quand même un début de saison assez compliqué, et que bon voilà, l'Atlético est à 7 points et pas trop loin derrière non plus, mais on sent bien que voilà, c'est pas non plus totalement serein chez les Colchoneros. Sacha, si tu veux compléter sur ce propos un peu, comment toi tu vois cette rencontre aussi? J'imagine que tu vois un peu voilà, un match dans le même style que celui que décrivait Fabrice, mais voilà, si tu veux nous détailler un peu ton propos, je te laisse tout faire ça.
Comme j'ai commencé dans ce podcast, c'est vrai qu'un match Real Betis-Villarreal, ça sent toujours le football espagnol, le beau jeu avec deux équipes ambitieuses. Quand on voit ben, les projets de jeu que mettent en place Pellegrini Unai Emery, on sait qu'on ne va pas s'ennuyer. Tu as très bien fait de souligner le recrutement de Villarreal. On va y revenir après avec Cyril. Mais c'est vrai que ça fait vraiment envie. Même Mojica, le Colombien qui est venu s'ajouter en provenance d'Elche, ça leur fait aussi beaucoup de bien. Mais voilà, on aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, voilà, on parlait aussi peut-être des difficultés qu'aura le Betis à leur marquer un but. Mine de rien, ils en ont encaissé trois hier contre les Polonais de Poznan. Et le Betis a marqué à chacun de ses matchs. Le Betis a certes des joueurs blessés, mais enfin, quand on voit la forme actuelle du Panda après Iglesias, moi je pense que ça peut vraiment être très intéressant de justement voir ce qu'il peut faire dans cette défense. Je pense que le gelon au niveau du Betis pourrait être une arme. Ça promet aussi au niveau du milieu de terrain avec deux équipes qui sont bourrées de qualité. Je pense que ce sera encore une fois la clé du match, comme dans chaque match de Liga, avec un Betis qui devra quand même dominer dans ce secteur de jeu, parce que comme on l'a vu hier, Villarreal peut aussi prendre la marée quand justement ils sont pas non plus super bien. On y reviendra, mais Manu Trigueros s'est blessé, ça va quand même être une grosse perte pour eux. Donc voilà, un match je pense qui ira à 100 à l'heure. Il faudra bien sûr pour l'équipe qui veut s'imposer mieux gérer ses temps faibles que l'adversaire. C'est surtout dans ce genre de domaine que ça avait pêché l'année dernière pour le Bétis. Et je crois une défaite 2-0 au Villamarine. Tu me corriges Fabrice si c'est pas ça, mais voilà, je m'attends vraiment à un match très très sympathique. Et je pense que tout peut se passer dans cette affiche tellement la qualité est présente.
Ouais,
En vrai,
c'est ce
c'est
que.
ça, super. Excuse-moi. En
Vas-y,
vrai, c'est
vas-y, je
ça,
t'en prie.
c'est super but d'Etienne Capoue, notamment.
Voilà, exactement une victoire 2-0, tu le disais. Et puis, c'est vrai qu'après avoir un peu fait ce bilan, il y a pas mal aussi d'éléments sur Villarreal qui ont été évoqués, qu'on pourra reconfirmer après. On va conclure cette partie sur le Bétis avec le pronostic. Alors, on va juste prendre celui de Fabrice pour le coup, parce que Sacha et moi, on le donnera carrément à la fin de l'épisode. Est-ce que, voilà, Fabrice, quel sera ton pronostic tout simplement pour cette belle rencontre qui nous attend?
Victoire 2-1 du Bétis. Le Panda, comme disait Sacha, il est en très très grande forme là. Il va encore en mettre un là. Et un petit but de Canales aussi qui a régalé. Je sais pas si vous avez vu le match au Bernabéu,
Oui.
mais c'était un récital de Canales.
Ouais, exactement. Et puis en plus, c'est vrai que tu disais, Borja Iglesias, voilà, dont on parle aussi beaucoup pour aller au mondial avec notamment Iago Aspas. Donc c'est vrai que ça sera aussi voilà, un très beau duo en tout cas qu'on pourrait avoir au mondial, quoi. Et si
Ouais, c'est sûr. J'espère vraiment que Canales ira et que le Panda aussi.
Ouais.
Mais j'ai de gros doutes au fait que Luis Enrique regarde le Bétis, alors.
Et ben effectivement, on verra ça déjà bientôt parce qu'il y aura le rassemblement là dans quelques jours, hein, la semaine prochaine. Donc déjà on aura aussi un premier aperçu. Et puis nous on va conclure cette partie sur le Bétis. Sacha, est-ce que tu voulais ajouter autre chose ou est-ce qu'on enchaîne du côté de Villarreal?
Non, je pense qu'on est très complet, pardon, au niveau du Bétis, on a dit ce qu'il y avait à dire, mais non, je pense que Luis Enrique a vraiment ses yeux rivés aussi sur cette formation. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de qualité en Espagne, à tous les postes, que c'est difficile, mais je pense que plus le temps passe, plus le Panda a quand même des vraies chances d'aller à la Coupe du Monde. Tu parles de Canales, c'est vrai qu'on a tous vu ce petit tour autour de Luka Modric, s'il vous plaît. Ça reste quand même l'une des images du week-end dernier aussi. Mais non, comme je vous l'ai dit, un match qui vraiment nous fait saliver. Et puis maintenant, on va parler de Villarreal. Merci à toi, Fabrice, d'être venu nous parler de ton Bétis. C'est toujours mieux d'avoir un vrai supporter pour nous parler de son équipe.
Eh ben merci les gars, toujours un plaisir hein, quand vous voulez. La dernière fois, je crois qu'on n'avait pas réussi à se mettre raccord. C'est vrai que moi, je n'ai pas trop trop dispo, je m'en excuse, mais je travaille pas mal et tout ça. Puis j'essaie de m'arranger quand même pour faire quelques podcasts avec vous.
Bah, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Puis non, c'est vrai que c'est aussi sympa, c'est ce qu'on dit parce que c'est vrai que aussi avoir une page sur le Bétis en France, c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que c'est quand même pas dans les clubs les plus médiatisés de France non plus, dans les clubs espagnols les plus médiatisés en France. Donc voilà, si on peut avoir aussi le travail que tu fais à côté, voilà, c'est en tout cas un grand plaisir de te recevoir. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis nous, du coup, pour notre part, on enchaîne avec Cyril pour parler de Villarreal.
Bah ouais, puis je vous félicite en tout cas pour votre page hein, qui est vachement en train de bien grandir. Donc c'est dû aussi à votre excellent travail. Continuez comme ça, les gars.
Merci beaucoup. On poursuit donc dans cette seconde partie de notre épisode de cet avant-match entre le Betis et Villarreal. On est toujours avec Sacha, puis on accueille surtout Cyril, gérant de la page Actu Villarreal. On rappelle, salut Cyril, comment ça va?
Salut, très bien, très bien. Ben, je rentre de Valence, j'étais le week-end dernier, donc avec bronzé, avec plein de bons souvenirs, donc très bien.
Effectivement, ouais, on avait pu suivre un peu tout ça sur Twitter. On avait vu que c'était effectivement un week-end chargé pour toi. Et puis, il y a eu donc cette belle victoire, notamment entre autres, hein, dans ce que tu as pu voir contre Elche. On va justement revenir sur ce que Villarreal a proposé, probablement dans ce début de saison en Liga. C'est vrai que on l'évoquait déjà un peu hier. Il y a eu toutes ces, enfin, il y a eu tout cette, enfin, c'est ce que disait en tout cas Fabrice hier, le gérant de la page du Betis France, qui trouvait que voilà, l'effectif de Villarreal était toujours aussi solide et avec les recrues l'était davantage. Mais du coup, je disais, on va parler un peu de ce début de saison en Ligue 1 avec 3 victoires et puis un match nul, ce qui place quand même Villarreal à la 3e place et un gros début de saison. Il y a surtout cette statistique, hein, comme quoi Villarreal n'a pas encore encaissé de but en championnat, seule équipe d'ailleurs des 5 grands championnats européens à ne pas avoir encaissé de but. Donc voilà, toi Cyril, avant que je passe la parole à Sacha sur ce point, qu'est-ce que tu penses du début de saison de Villarreal en Ligue 1? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé globalement? Voilà, quel bilan tu en tirerais?
Ben, je dirais qu'on est sur dans la droite lignée de ce qu'on a vu dans la pré-saison, avec une équipe, comme ça a été dit, qui a assez peu changé, même très peu changé cet été. On s'attendait au départ de Pau Torres qui n'a pas eu lieu, au départ de Danjuma qui n'a pas eu lieu. Il a été question de Chukwueze, d'Iremi en fin de mercato, finalement ils sont restés. Au final, apparaît Stupiniane qui a été numériquement remplacé par Mojica, en toute fin de mercato d'ailleurs. On a à peu de choses près le même collectif qu'on avait la saison passée, même renforcé selon moi, avec les retours de prêt de Baena, avec de Cuenca, avec l'arrivée de Morales, avec la montée de Jackson. Ce qui fait que on a vraiment un collectif qui tourne, qui est réglé comme une horloge. Et bah du coup en Liga ça s'est traduit par ce début de saison. Et je dirais même le seul accroc qu'il y a eu contre à Getafe, ce match qui était assez minable, parce que ça a pas mal rappelé ce qu'on avait pu produire la saison passée à de multiples occasions, début de saison et un peu au mois de mars, avec ces matchs contre les équipes de bas de tableau, milieu de tableau, contre lesquelles on n'arrivait pas. Là, ça s'est un peu reproduit, on a été un peu rattrapé par nos vieux démons, mais au final, là où sur ce genre de match, on perdait l'année dernière à défaut de ne pas gagner, là, cette saison, on n'a pas perdu, malgré tout. Donc du coup, même sur des points, sur des matchs compliqués comme ça, il y a quand même du positif à retenir. Donc non, c'est ça que du bon sur ce début de saison. Encore une fois, dans la lignée de la pré-saison, si on cumule tout, on est à, je crois que j'ai sorti la stat, à 12 victoires et 3 nuls, toutes compétitions confondues, pour 0 défaite. Donc ça tourne, ça tourne bien. Même Rulli est en état de grâce, il l'a montré au Metropolitano. Donc non, que des raisons d'être satisfait.
Oui, puis c'est ce que tu dis, c'est vrai qu'on l'avait évoqué avec Emeric dans l'épisode de pré-saison, tout au début de la saison. Donc. Mais effectivement, ça, c'est aussi, il y avait aussi un été très solide du côté de Villarreal. Sacha, je te passe la parole si tu veux compléter un peu ce que disait Cyril. Est-ce que justement tu valides le fait qu'ils disent qu'il y a quand même du positif un peu à tous les niveaux concernant ce que fait le sous-marin dans ce début de saison?
Oui, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'il a parlé de ce petit accroc contre Getafe, qui a rappelé les mauvaises performances de l'année dernière. Mais l'année dernière, il y avait eu cette défaite à Elche en plein mois de janvier-février qui avait été assez étonnante, ou peut-être un peu après, je crois que c'était peut-être après la Juve. Donc, bref, ça n'a pas vraiment d'importance. Là, au moins, ils ont réussi à prendre les points, sauf là, ce voyage au niveau du Coliseum. C'est l'une des équipes en Espagne qui a le plus joué. Pareil, il le disait, hein, 12 matchs en comptant la pré-saison, mais les deux matchs préliminaires contre Suisse en Conference League, mine de rien, ça a pesé, parce que ça n'a pas non plus été des matchs si faciles que ça. On a vu d'ailleurs que les équipes croates, grâce à Zagreb, sont quand même des équipes très compétitives, et la victoire du Dynamo contre Chelsea, donc c'est pas une mince affaire. Là, vraiment, oui, on a l'impression d'un Villarreal qui arrive vraiment à maturité, d'un groupe qui est bien ensemble, avec les principes de l'entraîneur, mais qui sont connus de tous et bien évidemment appliqués. Je pense que l'extraordinaire expérience d'avoir pu atteindre les demi-finales de Ligue des Champions l'année dernière en battant coup sur coup la Juve et le Bayern vont servir énormément à ce groupe. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qui leur enlève peut-être un certain complexe d'infériorité qu'on pouvait ressentir pour les saisons précédentes. Et ça vient dans la ligne de cette superbe victoire en C3 lors de la saison 2020-2021. Donc, c'est un Villarreal voilà, qui est directement concentré, qui, comme l'a très bien dit Cyril aussi, n'a pas perdu ses meilleurs joueurs. Et ça, on a eu vraiment très, très peur parce qu'on connaît un caractère prédatif de la première ligue sur le marché des transferts. On a encore vu avec le départ d'Isaac du côté de la Sociedad pour une somme record, on pouvait s'attendre à ce que un club comme Fulham, West Ham, que sais-je encore, vienne un très bon élément de Villarreal. Ça n'a pas été le cas. Donc là, vraiment, je pense qu'on est, au devant d'une très belle saison pour le sous-marin jaune. Cette victoire de prestige aussi, et plus que de prestige, cette victoire capitale du côté du Civitas Metropolitano. Et de l'Atlético Madrid de Cholo, elle va faire aussi beaucoup de bien. C'est là où Rulli s'est exprimé avec peut-être ce qui restera déjà comme la parade du début de saison. Mais voilà, un Villarreal qui sait prendre les points contre les clubs contre qui il ne les prenait pas l'année dernière et qui a su aussi gagner un match de prestige. Donc, non, vraiment, un début de saison très, très, très impressionnant.
Ouais, puis en plus, c'est vrai que c'est ce que tu disais, ça se confirme aussi avec le un peu ce qu'on a pu voir probablement aussi en Europe. Alors c'était différent, on va parler un peu de ça avec toi Cyril, parce que c'est vrai que là il y a eu cette première victoire, on va dire en conférence ligue là pour la première journée, victoire pas facile d'ailleurs contre Poznan, mais sur le score de 4-3. Puis il y avait eu aussi avant, c'est vrai que tu fais bien de le préciser ça aussi, ces deux matchs contre Ajax Split là avec une victoire 4-2 à l'aller et 2-0 au retour. Donc voilà, toi Cyril, un peu la même question, voilà, qu'est-ce que tu as pensé vraiment aussi de ces premiers matchs européens, on va dire, parce qu'il y en a eu trois donc. Et puis pareil, c'est vrai que j'avais posé la même question à Fabrice, même si c'est pas non plus trop facile de fixer peut-être un cap aujourd'hui. Quel objectif comme tu fixerais toi pour Villarreal dans cette Conference League?
Ce match contre Poznan, jeudi, on a eu la première mi-temps, en tout cas, c'était quasiment ce que j'ai écrit sur Twitter, un copier-coller de. Du match aller contre Split, avec un but très rapidement encaissé sur une mésentente entre le gardien Jorgensen et Della. Et puis ensuite, on a heureusement su réagir, et on s'attendait à ce que ça se passe à peu près de la même façon contre Split. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu un début de deuxième mi-temps cataclysmique, et on s'est transformé ça en un calvaire qui, heureusement, s'est bien fini avec le coup de pétard de Coquelin en fin de match. Mais l'erreur qui amène le premier but au bout d'une minute trente, elle est révélatrice, parce qu'elle implique Jorgensen, le gardien, qui vient donc de l'équipe B, qui n'est même pas titulaire indiscutable en équipe B, puisqu'il y a une rotation avec l'autre gardien, Iker Alvarez, et Della, qui était donc latéral droit jeudi, alors qu'il est défenseur central en équipe B. Donc tout ça est dicté par les absences de Pepe Reina, bien sûr, dans les buts, qui s'est blessé à la hanche avant le match contre Elche, dont on ne sait pas trop d'ailleurs bon, quand il va revenir pour l'instant. Et par l'absence évidemment de Foyt à droite, vu que Kiko Femenia est donc le titulaire du poste pour presque 2 mois à venir, eh bien, il est préservé en Conference League. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un groupe, notamment derrière, qui est un peu hétéroclite. On avait Mojica qui s'est assez bien comporté, mais qui a joué son premier match jeudi soir avec Villarreal. Mandy qui à chaque match coûte un pénalty ou un but. Donc c'est très compliqué. On sent que devant, il y a une force de frappe qu'on n'avait probablement même pas l'année dernière, qui nous permet vraiment de frapper à n'importe quel moment. Là où on a mis une bonne demi-heure, à galérer un peu à trouver l'ouverture, et puis finalement bon, ça s'est assez rapidement réglé quand Baena et Chukwueze ont commencé à avoir envie de jouer. Mais je dirais que ça a mis une lumière crue sur ce qui va être ce dont on se doutait un peu, mais ce qui va être le problème durant cette saison, avec les ambitions affichées en Liga et évidemment en Conference League, où Villarreal ne peut pas difficilement se cacher. Je veux dire, quand tu sors d'une victoire en Europa League et d'une demi-finale de Champions, tu peux difficilement t'afficher, débuter une saison de Conference League sans figurer parmi les grands favoris. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, si, comme je vous l'ai dit, si devant on a un backup qui est assez extraordinaire, avec des garçons comme Bainach ou Kwezé qui est on fire depuis le début de saison, le petit Nico Jackson, Morales, tout ça. Donc on a vraiment une palette assez impressionnante à ce niveau-là. Mais par contre, derrière, quand vous sortez de les deux doublettes, comme j'appelle ça, Albiol et Pau Torres dans l'axe, et Capu Parejo devant eux, au milieu, et c'est plus du tout la même chanson. Et ce qu'on a dit à propos de la Liga, là, ça compte plus vraiment parce que c'est plus la même musique, quoi. Ça devient beaucoup plus difficile et beaucoup plus friable. Donc je pense que si j'avais un conseil à donner aux gens qui ne savent pas quoi faire de leur jeudi, c'est de regarder les matchs de Villarreal en Conference League, parce qu'il y aura des buts d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, après, écoutez, on verra au mois de février, parce qu'on verra où on en sera en Liga à ce moment-là. Il est évident que si on est en course pour la Champions, il faudra faire des choix à un moment donné. Donc est-ce qu'il y aura une équipe un peu plus hybride qui sera alignée dans ces moments-là, ou quand on avancera un peu plus dans la compétition, ce sera à voir. Après, non, c'est les ambitions sont clairement affichées aussi dans cette compétition-là. Quand on connaît en plus l'ADN européen de Villarreal et d'Unai Emery, on peut difficilement faire autre chose que de viser la victoire finale.
Ouais, et puis c'est vrai que c'est ce que tu dis, ça a été aussi clarifié par le club. Sacha, je te pose un peu la même question, peut-être un peu différemment. Ce que tu vois, c'est vrai que la Cyril évoquait justement sur le fait que défensivement, hors dehors des cadres et en dehors de ce que Villarreal a l'habitude de mieux faire, c'est vrai que dès que les joueurs changent, surtout en défense, on voit quand même quelques lacunes qui ressortent davantage. Est-ce que toi, tu vois quand même Villarreal arriver, voilà, à jouer sur les deux tableaux, malgré ce que dit Cyril aussi, qu'il faudra attendre de voir si le club peut pas forcément plutôt privilégier une qualification en Ligue des Champions que continuer en Conference League. Pareil, voilà, comment tu vois un peu cette saison européenne, on va dire, du côté de Villarreal, et tout en tenant compte aussi un peu de ce qu'ils feront éventuellement en championnat.
Cyril a très très bien dépeint le tableau, et je vais juste dire, bon, il y a une petite malédiction du côté du sous-marin jaune, c'est la Copa, hein, qui chaque année est quand même assez difficile pour eux, donc peut-être que Unai Emery mettra sous le compte de la malédiction une élimination assez rapide du trophée pour justement se concentrer sur les deux. Non, en fait, je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que voilà, le Villarreal doit tenir son rang en C4. Ça reste un titre, mine de rien. Encore une fois, on a pu voir la joie de la Roma de Mourinho l'année dernière de le remporter. C'est une vraie opportunité. Rappelons que Villarreal est quand même un club qui est en perpétuelle croissance, qui est toujours en quête aussi de reconnaissance face à l'énorme voisin qu'est Valence, même si Valence va mal. Et briguer un deuxième trophée européen en l'espace de 3 saisons, ça aurait quand même de la gueule, hein, si je peux le dire ainsi, parce que encore une fois, on voit aussi en C4 que mine de rien, le tableau à partir des quarts, demi-finale, il n'est pas non plus ridicule. Il y a quand même des clubs de première ligue qui jouent au tableau, pareil, des clubs de Serie A aussi intéressants. Donc non, c'est une compétition où il faut vraiment, vraiment tout donner, parce qu'encore une fois, comme je le disais en début d'intervention, la reconnaissance d'un club, elle s'acquiert grâce au titre, et ça en est un, donc c'est important. Après, ce serait aussi peut-être important aussi au niveau de l'UEFA de peut-être faire quelque chose au niveau de la C3, C4, pour qu'en gros, il y ait quand même plus de reconnaissance pour la C4, car, vu que la C4 ne joue pas la Super Coupe d'Europe, ça fait aussi peut-être encore. Ça joue peut-être au niveau de la dépréciation du titre, mais je pense que l'UEFA va mettre des choses en place pour justement donner encore plus de lumière à cette compétition, puis financièrement aussi, ça reste important. Il y a quand même la bagatelle de 20 millions d'euros à aller chercher à peu près pour l'équipe qui s'imposerait. Donc c'est aussi intéressant. C'est que Villarreal a fait le choix de ne pas perdre ses meilleurs éléments. Mais passer d'un budget avec la Ligue des Champions à un budget avec la C4, ce n'est pas non plus la même chose. Et il est évident que oui, la course au top 4 sera effrénée cette année, et que c'est un vrai objectif d'Unai Emery. L'année dernière, Unai Emery a été laissé tranquille parce que ben voilà, ce qui se passait en Europe, c'était absolument féerique. C'est aussi l'entraîneur qui a pour la première fois fait gagner Villarreal, mais le parcours en Liga de la saison passée, il a quand même fait graisser des dents. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette parenthèse magique à côté, Emery aurait eu quand même assez chaud aux fesses, parce que C'est pas normal d'avoir retrouvé un Villarreal 7e et très longtemps d'ailleurs en ballottage favorable ou défavorable avec l'Athletic Club pour cette place qualificative pour la petite Coupe d'Europe. Donc il va falloir effacer cette saison. Le succès, j'y reviens, mais contre l'Atlético, pour moi, il est capital parce que mine de rien, l'Atlético est aujourd'hui un concurrent direct de Villarreal pour ce top 4. Donc, c'est 3 points qui sont pris et qui, peut-être au début de la saison, n'étaient pas clairement affichés comme objectif au niveau de la classification. Donc, voilà, il y aura aussi ben, surveiller l'évolution de la situation du côté du Séville. Séville qui joue sa peau aussi ce week-end, enfin, Lopetegui, pardon, qui joue sa peau ce week-end face à l'Espagnol, mais il y aurait quand même la possibilité de pourquoi pas mettre un vrai candidat là aussi à une bonne dizaine de longueurs d'écart, et ça, ce serait quand même si René des victoires en septembre, ce serait quand même intéressant à voir aussi justement face au Betis, parce que c'est le match dont on traite, mais c'est deux équipes qui ont sensiblement les mêmes ambitions, et prendre l'avantage comme ça au Benito Villamarine, psychologiquement, ce serait important là aussi pour Villarreal de s'inscrire dans cette dynamique, vraiment de vouloir atteindre le top 4.
Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai que tu as commencé déjà un peu à y répondre. Et d'ailleurs, je précise aussi, c'est vrai qu'il y aura aussi dans tout ça, ce qui sera très intéressant à suivre, pardon, ce sera aussi avec l'évolution des joueurs avec le mondial aussi. Parce qu'on sait que Villarreal sera un club qui sera notamment concerné par les joueurs qui seront en mondial. Mais c'est vrai que tu le disais, sachant qu'on va parler un peu de, après avoir parlé d'Europe et de début de saison, on va parler un peu du match qui arrive ce dimanche. Parce que c'est quand même une belle affiche entre le quatrième et le troisième, plus précisément. Et c'est vrai qu'on le disait, donc Villarreal qui a doublé le Betis à la dernière journée. Ça fait quand même une affiche voilà, de haut tableau, deux équipes qui sont en lutte pour la Ligue des Champions, d'autant plus, voilà, comme on le précise aussi précédemment, que Atlético connaît un début de saison. Alors plutôt bon, mais quand même avec ce revers ce revers contre Villarreal et puis ce match contre la Real Sociedad qui font qu'ils ont un peu de retard. Et puis surtout Séville, voilà, qui était quand même quatrième la saison dernière, qui est là tout au fond du tableau. Donc ça ouvre des portes aussi pour la qualification en Ligue des Champions. Mais voilà, toi Cyril, comment tu abordes ce match face au Betis? Pareil, une équipe qui fait un gros début de saison, comment tu le sens, comment tu le vois venir ce match du dimanche?
Mais le Betis, c'est une équipe, au Benito Villamarine en tout cas, qui jusqu'aux trois dernières saisons nous réussissait rarement. Et là, donc ça fait trois matchs de suite sans défaite là-bas, avec notamment la super victoire l'année dernière au mois de février 2-0 avec le but de Capoue en fin de match. C'est vraiment un deuxième très gros test, un deuxième révélateur. Le premier a été magnifiquement géré, magnifiquement réussi. Et ce que disait Sacha, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que cette victoire-là, ces points-là, ce poids de cette victoire-là, c'est ce qu'on n'avait pas réussi à, pour très peu de choses à remporter l'année dernière, à peu près au même moment de la saison. Je veux croire, je veux espérer que cette victoire-là va peser de façon très positive sur les têtes, dans les têtes. Et donc ce match face au Betis, c'est vraiment important pour ça aussi. Même un nul ne serait pas un mauvais résultat, bien évidemment, mais parce qu'on a quand même une équipe en face qui tourne très très bien depuis le début de saison. Alors même si... ils ont deux joueurs sur le flanc devant, Fekir et a priori Juanmi. Il me semble qu'il s'est blessé aussi à Helsinki jeudi. Oui. Bon, eux, c'est pareil, ils ont pas mal fait tourner, évidemment. Ils ont quasiment intégralement fait tourner jeudi en Coupe d'Europe. Donc, ils ont un 11 titulaire qui est relativement frais. Donc non, je pense que ça, en plus c'est le parti d'assaut du dimanche soir, je pense que ça peut être vraiment un match très très sympa. Et moi je suis plutôt optimiste parce qu'on a vraiment, encore une fois, pour compléter ce que je disais en début de podcast, on a vraiment une équipe qui tourne, qui est réglée comme une horloge et qui est très difficile à prendre en défaut. Donc non, je suis globalement très très positif pour ce match-là.
Et puis, si tout à fait, puis en plus, c'est ce que disait aussi Fabrice, hein, qui parlait un peu de Villarreal et qui nous disait que voilà, c'était une équipe justement qui était bien rodée, et aussi c'était aussi ça qui lui faisait un peu craindre ce match, parce que voilà, c'est une équipe aussi en face qui. Enfin, une des deux équipes très solides d'ailleurs. Et puis bon, on va passer au pronostic. Juste avant, est-ce que ça, tu voulais préciser quelque chose par rapport à ce que tu avais déjà pu avancer dans la partie sur le Bétis concernant ce match, après ce qu'on a dit là, ou tu souhaites enchaîner sur les pronostics?
Non, différent à dire, même si on n'enregistre pas les deux parties
C'est vrai.
dans le même créneau horaire, je reste sur ce que je pense. Voilà, ça va être un match ultra intéressant où ben, justement le milieu sera le secteur de jeu à gagner et à voir comment se comportera la défense de Villarreal contre ben, la capacité de transition aussi du Betis qui est très intéressante, mais à voir aussi comment se comportera la défense du Betis. Face aux offensives de Villarreal. Ça nous promet vraiment un superbe dimanche soir. C'est vrai, on insiste là-dessus, mais pour ceux qui ont toujours l'habitude de vouloir voir le Barça, le Real Madrid, l'Atleti en prime time, vraiment ce match-là, sur même le foot espagnol, on ne peut pas le manquer. C'est un rendez-vous de jeu offensif, de principe de jeu, et il me tarde déjà d'être dimanche 21h devant la télé.
C'est ça, et puis en plus voilà, c'est que c'est un match en plus de ça avec deux équipes qui sont vraiment au top toutes les deux pile en même moment dans une excellente série. Et donc on va conclure ce podcast pardon, sur les pronostics. Je commence d'abord avec toi Cyril, si tu veux bien, sur le pronostic que tu donnerais pour le match de ce dimanche.
Alors, oui, juste simplement pour
Vas-y.
avant de mon pronostic, juste pour revenir simplement au niveau des absents et des présents,
Ouais, vas-y.
il y a deux joueurs en fait que je voulais évoquer. C'était donc Trigueros qui est revenu, qui a rejoué pour la première fois après plus d'un mois d'absence jeudi en Coupe d'Europe. C'était son 426e match et il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire de Villarreal en dépassant Bruno Soriano. Donc ça, c'était un petit peu le petit événement dans l'événement jeudi soir. Et Danjuma qui a repris l'entraînement depuis un peu plus d'une semaine, l'entraînement collectif depuis un peu plus d'une semaine, qui n'était pas dans le groupe jeudi, qui sera, je doute qu'il le soit dimanche soir. En tout cas, s'il l'est, je le vois pas rentrer. Mais voilà, ça va être aussi peut-être une des questions qui va se poser pour le match de dimanche. Pour les pronostics, écoutez, moi je vois quand même bien, comme l'année dernière, peut-être une belle victoire de zéro, un petit peu comme ce qui s'est passé au Metropolitano, avec deux buts en deuxième mi-temps. Bah pour les buteurs, je sais pas, je dirais peut-être Gerrard qui est un peu moyen depuis le début de saison, qui n'est pas le Gerrard qu'on a connu en 2020-2021. J'ai peur que ces grosses phases de blessures l'année dernière, elle est un petit peu amoindrie. Donc pour l'instant, il est pas trop là, mais je ne désespère pas de le voir enfin prendre son essor réel rapidement et pourquoi pas dimanche soir. Donc un petit but de Gerrard au moins, voilà, et peut-être un autre de Baena, pourquoi pas, qui est assez chaud en ce début de saison. Donc une belle victoire de zéro.
C'est noté, ouais, donc une victoire de avec des pourquoi pas des buts de Gerrard et Baena, tu me disais. Sacha, ton côté, quel pronostic tu donnes pour cette rencontre?
C'est vrai que les absents du côté du Bétis en attaque, que sont Fadmy et Fekir, vont peser lourd quand même aussi dans la balance. Mais moi, je m'attends vraiment à un match spectaculaire, dans la lignée de ce que j'ai dit. Je m'attends à un match nul, mais un match nul avec beaucoup de buts, peut-être un 2-2, voire même un 3-3. Ça me surprendrait pas. Je pense que c'est deux équipes qui vont jouer de manière totalement débridée. Je pense que le Benito Villamarín va avoir aussi du spectacle devant les yeux. Donc, non. On va se régaler. Ça va être un bon match nul entre deux équipes qui vont nous proposer de très bonnes choses. Donc, allez, un petit 3 partout.
Un petit 3 partout, donc un match qui serait voilà, très très prolifique. Et puis pour ma part, je rejoins. Alors, je suis un peu entre vous deux, mais je vais rejoindre un peu ce que disait Cyril sur pourquoi pas une victoire de Villarreal, peut-être 2 buts à 1, une victoire un peu plus courte. Mais parce que c'est vrai que les deux équipes sont dans un gros moment, comme on l'a dit durant ce podcast. Mais c'est vrai que le fait que le Betis est un absent, notamment comme Juanmi devant, ça peut peser. Et je pense que voilà, Villarreal aussi est peut-être aussi dans une forme encore supérieure à celle du Betis. Mais en tous les cas, voilà, on aura un très gros match avec deux équipes voilà, qui proposent de très bonnes choses dans ce début de saison. Et puis bah, voilà, on va arriver à la fin de ce numéro, de ce bon numéro, ce numéro un peu différent d'ailleurs. N'hésitez pas à nous dire si ce format d'enregistrer, on va dire, avec une partie sur chacun des deux clubs vous a plu. Je commence d'abord par te remercier, Cyril, d'être venu pour nous parler aussi de Villarreal sur cette rencontre qui s'annonce, voilà, on l'a dit, passionnante et alléchante.
Merci à vous. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ben bon, en tant qu'intervenant, en tout cas, le format, je trouvais ça sympa, quoi. Voilà. Merci beaucoup.
Ouais, bah, ça permettait aussi de changer un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de faire, et effectivement, ça permet aussi peut-être de revenir plus en longueur sur certains sujets concernant un club particulier. Et puis, bah, merci Sacha aussi d'être venu pour nous parler sur les deux parties du Bétis et de Villarreal, donc pour compléter les propos de nos différents invités.
C'est toujours un plaisir, hein, comme d'habitude, de parler de foot espagnol, de ce genre d'affiches. Là, en plus, avec la page, on est en plein boom. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer. Donc, ça fait vraiment plaisir. On va vivre une saison à tous les étages très, très passionnante et riche en opportunités. Donc, merci à tous de nous écouter, de réagir sur nos publications. Ça nous fait très plaisir. Et puis, il nous tarde ce dimanche soir et ce super match qui nous attend. Entre le Bétis de Pellegrini et le Villarreal de Miami.
Voilà, exactement, tout a été résumé, donc n'hésitez pas, voilà, à partager, à nous dire ce que vous avez pensé de ce numéro. Et puis voilà, merci à tous ceux qui nous auront écoutés, à tous ceux qui nous soutiennent au quotidien sur la page, comme le disait Sacha. Et puis voilà, nous on se retrouve en tout cas très bientôt pour une nouvelle et dernière journée de Ligue 1, on va dire, avant d'être très international dans la semaine prochaine.